Je me suis posé la question en lisant un passage de la vie de Moïse. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait la renommée de Moïse ? Moïse, il est connu même des, j'allais dire, même des païens. Moïse est connu de tous, pratiquement. Finalement, Moïse est d'abord connu pour ses hauts faits. Moïse a fait des choses extraordinaires, on peut le dire. Il a défié Pharaon, armé seulement de son bâton. Il a accompli des miracles devant ce même Pharaon. Il a ouvert la mer Rouge, toujours avec son bâton, pour permettre au peuple de traverser. Alors que, alors que l'armée égyptienne a été complètement engloutie, il est monté sur la montagne, il a parlé directement avec Dieu, il a reçu les tables de la loi, il a conduit ce peuple, et quel peuple, dans le désert pendant 40 ans. Il les a conduits jusqu'aux portes du pays de Canaan, jusqu'aux portes du pays de la promesse. On voit des qualités de leader, de berger remarquables chez Moïse. Mais en dehors de ces qualités, de ces aptitudes spirituelles qui sont évidentes, ça a été aussi un intercesseur extraordinaire. Combien de fois il s'est interposé entre le peuple et Dieu, quand Dieu voulait frapper justement le peuple, Moïse s'est interposé, donc c'était un intercesseur remarquable. Moïse se distingue aussi par des qualités qui ne sont pas seulement des actions, des actes héroïques, mais également par des qualités morales qui sont des qualités remarquables. Ce qui a valu de dire que Moïse, déjà tout jeune, il était beau, il est dit aux yeux de Dieu, acte 7, 20. Et Dieu savait, connaissait la vie de Moïse, mais qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut rendre la vie d'un homme belle? Est-ce que c'est seulement ce qu'il fait, ses exploits, ou est-ce que ce n'est pas aussi son caractère qu'il va pouvoir manifester tout au cours de sa vie? Ce qui fait la beauté de Moïse, et finalement de tout homme, de toute femme, c'est sa ressemblance avec Jésus-Christ. Et déjà, sur certains points, on peut voir que dans le caractère de Moïse, il y a des points de ressemblance avec Jésus-Christ. On le voit aussi chez David, aucun de ces hommes n'est parfait. Aucun de ces hommes n'est parfait, et Moïse n'était pas parfait. Mais il manifeste, on va dire, un fruit de l'esprit, un caractère à la ressemblance de Jésus. Et je crois que c'est important aussi pour nous, d'autant plus aujourd'hui, que nous puissions être beaux, non seulement aux yeux de notre femme, mais ou de notre mari, ou de nos amis, ou de nos copains, ou de notre copine, mais que nous, surtout nous soyons beaux aux yeux de Dieu. Ça qui compte, n'est-ce pas ? Ça qui a de la valeur, le reste, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas l'importance que celle d'être beau aux yeux de Dieu. Premier point, premier trait de caractère, on peut le lire dans le livre des Nombres au chapitre 11, à partir du verset 16. On va découvrir un premier trait de caractère chez Moïse. Il veut dire que là, Moïse était vraiment fatigué de porter, j'allais dire, à bout de bras ce peuple. C'était quand même, vous voyez par exemple au chapitre 11, verset 21, il est parlé de 600 000 hommes de pied. Donc sans parler des femmes et des enfants, vous voyez quel peuple nombreux. Et Moïse portait ce peuple-là à bout de bras. Et il est épuisé, il demande même, puis il préfère même plutôt mourir que de porter seul ce peuple-là. Et Dieu va lui dire, eh ben c'est très bien, assemble un certain nombre d'hommes, des anciens, tu vas en choisir 70. Et là, Moïse va obéir, il va en choisir 70. Et qui vont se présenter devant la tente d'assignation. Et là, Dieu va descendre et va prendre de l'esprit qui était sur Moïse et il va le répandre sur les 70. Et il se trouve que, eh bien, il en manquait deux. Il en manquait deux. Et là, des médades, je crois. Et ces deux hommes étaient restés dans le camp. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils ne s'étaient pas réveillés ? Est-ce que... On ne sait pas, mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. En tous les cas, eh bien, il est dit que ces deux hommes-là aussi ont reçu de l'esprit de Moïse. Parce qu'il est dit qu'ils ont prophétisé, certes, on voit les limites de l'ancienne alliance, parce qu'ils ont prophétisé un temps et puis après ils se sont arrêtés. Mais eux aussi, qui n'étaient pas là physiquement, ont reçu de cet esprit-là. Et c'est une petite parenthèse, mais ça arrive que des chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit alors qu'ils ne sont pas. Dans le rassemblement, la plupart du temps, Dieu baptise dans le Saint-Esprit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, dans le rassemblement de son peuple. Et Dieu aime à baptiser et à remplir de son esprit quand son peuple est rassemblé. Mais il y a des exceptions, et parfois Dieu peut baptiser des frères et sœurs alors qu'ils sont seuls, dans fervent de cœur certainement, s'attendant à l'action du Saint-Esprit, bouillant d'esprit, eh bien Dieu peut les baptiser alors qu'ils sont prêts à s'endormir, dans leur lit, alors qu'ils sont seuls dans leur chambre ou peut-être dans la voiture. C'est arrivé. Mais c'est vrai que Dieu prend un plaisir particulier à baptiser et à remplir de son esprit quand son peuple est assemblé. Et là, eh bien, il est dit que c'est arrivé à l'oreille, un jeune homme a fait parvenir cette nouvelle à Josué, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Et il lui dit, eh bien, il y a deux hommes qui n'étaient pas là à la tente d'assignation et qui ont été aussi visités par le Saint-Esprit. Et là, eh bien, Josué a une réaction, il va dire, Moïse, empêche-les. Moïse, empêche-les. La réaction, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Moïse. La réaction de Moïse. Il va dire, es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ça, vous voyez ça au verset 29 du chapitre 11. Voyez la réaction de Moïse. Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse, loin d'être jaloux, est un visionnaire. Il est animé, il est conduit par l'esprit de la Nouvelle Alliance. En effet, son souhait, sa vision va s'accomplir le jour de la Pentecôte. Quand les 120 sont réunis, l'Esprit est répandu, et tous, il est dit, se mirent à parler de nouvelles langues. Le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux, selon la promesse de Joël. Et d'ailleurs, Pierre, dans Acte 2, va pour expliquer ce qui se passe, parce que les hommes qui sont là le jour de la Pentecôte pensent qu'ils sont tous ivres de vin doux. Il leur dit non, c'est la promesse de Joël, du prophète Joël, qui s'accomplit. Acte 2, 16, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Voyez quelle vision. Déjà, sous l'ancienne alliance, on arrive à voir l'esprit de la nouvelle alliance au travers de certains hommes, certaines femmes qui ont marché avec Dieu. Et en l'occurrence, c'était le cas de Moïse. L'effusion, l'onction du Saint-Esprit n'est plus réservée à une élite ecclésiastique ou même royale, mais elle est pour tous les serviteurs et toutes les servantes du Seigneur aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Amen. Acte 2, 39, il est dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pour vous, ceux qui sont auprès, pour vous qui sont au loin, pour ceux qui sont au loin, c'est nous, c'est aussi les païens. Donc la promesse, elle est pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sans exception. Paul le dira aux Corinthiens, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Vous voyez donc, Moïse est vraiment dans cet esprit de la nouvelle alliance. Il n'est pas du tout jaloux et ne tient pas spécialement à préserver ses prérogatives spirituel. Au contraire, il veut qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. Le Saint-Esprit n'est plus donné sous la Nouvelle Alliance au compte-gouttes, par portion, mais avec plénitude. Jean 7, Jésus se présente, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ce n'est pas des petites gouttes. Celui qui croit en moi, voilà, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Cette promesse, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Et plusieurs questions à partir de là. Sommes-nous rentrés dans la promesse, nous aussi ? Sommes-nous baptisés dans le Saint-Esprit ? Parce que cette promesse, si tu ne l'es pas, elle est pour toi. Elle est pour toi. Il n'y a pas besoin d'attendre, elle est pour toi. Parlons-nous en langue ? Abondamment, comme Paul nous exhorte à le faire, quand nous sommes seuls dans notre intimité, est-ce que nous parlons abondamment en langue, quand nous marchons, quand nous prions, ou est-ce que nous avons perdu l'habitude de parler en langue ? Est-ce que nous exerçons les dons spirituels ? Est-ce que nous prophétisons dans l'assemblée ? Ou est-ce que ce sont seulement quelques-uns qui prophétisent ? Paul le dit, je voudrais que vous parliez tous en langue, et encore plus que vous prophétisiez. Particulièrement quand nous sommes assemblés, parce que quand nous sommes assemblés, le fait de prophétiser va nous permettre d'édifier notre frère, notre sœur, ou peut-être de parler, d'être un instrument pour parler au nouveau converti qui va arriver pour là ou pour les premières fois. Voulons-nous partager les bénédictions spirituelles de Dieu avec nos frères et sœurs, afin qu'eux aussi puissent rentrer dans ces bénédictions ? Ou préférons-nous, à l'image de Josué, les garder pour nous ? Est-ce que nous sommes jaloux des bénédictions spirituelles ou autres que nos frères et sœurs ont reçues ? Ou savons-nous sincèrement, et non pas feintement, entre guillemets, nous en réjouir ? C'est important, ça. C'est important de réfléchir à ces choses-là. En tous les cas, Moïse, il n'était pas jaloux. Il voulait que lui, ce qu'il ait reçu, le plus grand nombre puisse le partager, parce qu'il était dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons être dans la Nouvelle Alliance, mais toujours être dans l'esprit de l'Ancienne Alliance. Les pharisiens étaient toujours, Jésus était là, mais ils étaient toujours dans l'esprit de l'Ancienne Alliance. Première qualité de Moïse, on le voit, Moïse n'est pas jaloux, mais au contraire, il est imprégné de cet esprit de la Nouvelle Alliance, où les promesses de Dieu, elles sont pour tous en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Certes, Dieu te donne des dons différents, mais l'esprit est le même pour chacun. Amen. Il n'y a pas de privilégiés qui ont un accès plus direct auprès de Dieu. L'Église n'est pas une pyramide, voyez, où ce seraient seulement quelques-uns qui peuvent avoir accès à Dieu. Tous ensemble, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Amen. Et chacun, que nous soyons vieux, que nous soyons jeunes, quel que soit tout nouveau converti ou très ancien converti, tous au même niveau dans la présence de Dieu au travers de Jésus, qui est notre souverain sacrificateur. C'est merveilleux, ça. Le deuxième point, on peut lire dans Nombre 12. Nombre 12, du verset 1 au verset 3. Il est dit que Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Donc il parlait contre. On peut dire, effectivement, il avait effectivement pris une femme éthiopienne. Et il le précise. Donc ils disent la vérité, mais ils médisent. C'est ça la médisance. C'est dire du mal de quelqu'un. Même si c'est vrai. Mais en se gargarisant, on dit du mal, on étale, et on parle, on dit du mal de quelqu'un. C'est la médisance. Et Moïse a dû faire face à ça. Puis ensuite, il est dit, verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et là, c'est de la calomnie. Parce qu'effectivement, Dieu avait choisi sous l'Ancienne Alliance de parler au travers de Moïse tout particulièrement. Donc ils disent des mensonges là. Et Moïse doit faire face à ça. Et si on applique ça à nos personnes, quand nous sommes l'objet de médisance et de calomnie, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous? La suite nous dit « Et l'Éternel l'entendit ». C'est important de nous dire qu'à chaque fois que nous parlons mal d'un frère ou d'une sœur, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Peut-être on peut le dire en secret à un seulement, mais Dieu l'entend. Et ça ne lui plaît pas. Sommes-nous bien conscients que Dieu nous entend, quand nous disons du mal de notre frère, de notre sœur. Il est dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il fallait, parce que là, ce sont des attaques de sa propre famille, dans la chair, mais aussi de sa propre famille spirituelle. Parce que Aaron était dans le service à côté de lui. Et c'est difficile quand on est attaqué de gens qui sont proches. Mais Moïse ne dit rien du tout. Parce qu'il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il y a plusieurs traductions par rapport à ça, ce terme de fort patient. Plusieurs versions disent qu'il était très humble, très doux. Donc on voit la patience, la douceur ou l'humilité qu'on retrouve en fonction des traductions. Et il y a une traduction espagnole que je trouve intéressante qui dit qu'il était doux dans le sens de dompter. Vous voyez, comme un animal domestique. Dieu ne nous prend pas comme des animaux domestiques et ne nous traite pas comme des animaux domestiques. Mais il a besoin, au travers de notre caractère, par contre, de nous dompter. Il a besoin de nous dompter. Nous sommes parfois et souvent comme des chevaux fougueux. Et il a besoin de mettre un mort à notre bouche. Et c'est comme ça que Dieu veut dompter notre caractère. Il veut changer notre caractère au plus profond. Et cette notion est importante. Doux, dompté. Moïse était un homme fort doux, fort patient, fort dompté, ce qui lui a permis de supporter ces choses-là et de bien réagir. Et effectivement, quand on connaît l'histoire de Moïse, on sait que cet homme et son passé, que ce n'était pas son naturel, qu'il en fallait moins pour qu'il parte aux cartes de tour, parce qu'il a quand même été jusqu'au meurtre. Il réglait les choses de manière très, très, comment dirais-je, très direct, Moïse. C'était son caractère. Mais il a été dompté par Dieu. Et c'est la meilleure chose qui puisse être pour nous. Que Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes. Quand on arrive effectivement à l'état brut, mais on a besoin que Dieu nous dompte notre caractère, change notre caractère. Amen. Pas seulement de façade, mais qu'il le change profondément. Parce que, effectivement, la patience, la douceur, l'humilité, c'est pas forcément toujours évident, mais ça peut éventuellement être possible de les manifester quand tout se passe bien pour nous. Quand on n'est pas tenté, quand on n'est pas éprouvé, quand on n'a pas une tentation spécifique là, qui va nous éprouver. Mais quand nous sommes mis à l'épreuve, notamment de la médisance ou de la calomnie, directement, ou de d'autres épreuves, c'est là que, naturellement, notre caractère, parce que voilà, on est tous de la même patte, hein. On réagit sous une forme ou sous une autre, la Bible nous dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Jésus est mort pour tous les hommes, il est mort pour moi, il est mort pour vous, donc voilà, s'il est mort, c'est qu'il fallait, il fallait qu'il aille jusqu'au bout pour que nous aussi on meure avec lui, parce qu'il n'y avait rien à sortir de bon de notre nature. C'est vrai. Mais là, Moïse, on voit, il bronche pas, il dit rien, il a vraiment été dompté. C'est vrai qu'il a fallu 40 ans, bon, il a vécu longtemps aussi, on vit moins de temps, mais que Dieu puisse travailler notre cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La réaction de Moïse, son attitude est le fruit du travail de l'œuvre de l'Esprit en lui. Ce n'est pas naturel. Le caractère selon Dieu, qui plaît à Dieu, c'est pas l'œuvre que Dieu veut faire, ce n'est pas une amélioration de notre caractère. C'est un changement complet. C'est le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le fruit de l'amélioration de notre caractère. Parce que peut-être, on peut être patient, humainement parlant, les gens qui sont patients, on peut être patient. Mais, si on est honnête, on sait très bien, si vous prenez-vous chacun la plus grande qualité que vous pensez avoir. Je ne dis pas que vous avez, mais que vous pensez avoir. Eh bien, peut-être plus vous êtes vieux, et plus on va réaliser que, même dans cette qualité, on est vite limité à un moment donné. On est vite limité. Vous voyez ? Alors que quand Dieu travaille notre caractère, on peut être face à des situations où avant on aurait réagi sous une forme ou sous une autre, pas à la gloire de Dieu, mais parce qu'il y a eu ce travail de Dieu, eh bien on réagit différemment, on réagit à la gloire de Dieu. Et là d'ailleurs on n'en tire aucune gloire, on dit merci Seigneur, parce qu'on sait que c'est le travail de Dieu en nous. Et c'est ce que Dieu veut faire au plus profond de nous-mêmes, nous changer. Ce n'est pas par nos efforts qu'on peut se changer. Certes, il faut mettre nos efforts, il faut dire qu'on mette notre bonne volonté, faire ce qu'on a à faire, mais c'est Dieu qui nous transforme. La Bible dit dans Timothée que son esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et là, on voit que Moïse a manifesté de la maîtrise. C'est une communication de l'esprit qu'il a reçue. On a plusieurs exemples. Et l'exemple du maître, l'exemple de Jésus, il est dit qu'il était doux et humble de cœur. C'est-à-dire que c'était intrinsèque au fond de son cœur. Voilà la vraie nature de Jésus. Il était doux et humble de cœur. Et ça a été comment dire, éprouvé. Parce que dans Ésaïe, vous savez, il est dit qu'il a été maltraité, il a été opprimé. Il est ajouté, Ésaïe 53:7, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. Et, alors que ce serait suivi d'autre chose, moi ce serait suivi d'autre chose, mais lui non, il n'a pas ouvert la bouche. 1 Pierre 2 nous parle encore et nous dit que Jésus, il a été injurié, il ne rendait pas d'injure, maltraité, il ne faisait point de menace. Mais il s'en remettait à celui qui juge, justement. Ça, c'est le secret. C'est le secret de l'attitude de Jésus. Parce qu'on va se dire, c'est suicidaire de réagir dans certains cas, dans le monde d'aujourd'hui, où vous êtes agressé en votre travail, etc. Si vous ne réagissez pas, vous allez être balayé, etc. Mais non. Jésus, lui, sa force, c'est qu'il s'en remettait à celui qui juge, justement. Il savait qu'il avait son Père dans le ciel qui prenait soin de lui. Il n'avait pas besoin de se défendre spécialement. Il savait que Dieu était son défenseur. Et c'était sa pleine sécurité. Il remettait sa vie, sa cause à Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Vous savez qu'il y a certains accusés qui refusent de prendre un avocat. Mais nous avons un avocat. Et il faut que nous fassions appel à cet avocat. Nous réalisions qu'il est là pour nous défendre, pour s'occuper de notre cause, pour s'occuper de nous. Ce qui nous arrive, particulièrement si nous sommes l'objet d'injustice, n'est pas indifférent. On le voit par exemple pour Moïse. Il est dit que Dieu a entendu et ça ne lui a pas plu. La promesse de Jésus, dans Matthieu 5, il est dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre », c'est-à-dire littéralement ceux qui sont doux. Dans les Épîtres, l'enseignement à ce propos, il y a, je lis juste, dans Colossiens 3, 12, c'est Paul qui dit « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » On retrouve les trois points. Au moins, l'humilité, la douceur, la patience. Voyez combien Moïse était déjà vraiment rempli de cet esprit de Dieu, de cet esprit de la grâce. Paul dira aux Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et quand ce terme de douceur, qui n'est pas de la mièvrerie, hein, qui n'est pas de la passivité ou de la lâcheté, attention. Hein. Au contraire, il faut beaucoup de force pour être doux quand on vous accuse. Il faut beaucoup de force. C'est la qualité qui consiste à ne pas insister sur ses droits. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus, ce n'est pas un esprit de revendication absolue qui met l'accent sur ses droits. Dieu connaît quels sont nos droits. Il a à cœur qu'on puisse être défendu. Mais l'esprit qui nous anime n'est pas un esprit de revendication quant à nos droits. Maintenant, une question. Est-ce que nous ne devons jamais nous défendre quand nous sommes attaqués ? Eh bien, parfois oui, parfois non. La parole de Dieu est équilibrée. Il y a un passage, je lis dans Pierre, 1 Pierre 3, où Pierre dira « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. » Vous voyez, là il est dit « étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et avec respect. » Parfois, il faudra se taire. Et puis parfois, il faudra se défendre. Mais en tant que chrétien, on peut, si nous sommes attaqués, ou si on nous demande des comptes, nous défendre. Ce n'est pas défendu de se défendre. Mais par contre, il y a deux conditions à respecter. Deux principes importants, c'est de garder, dans la mesure du possible, notre calme, d'avoir cette douceur, qui est une force intérieure, et ce respect. Respect de celui même qui nous accuse, et puis respect de Dieu. Parce que le but, comme il est dit, gardons une bonne conscience, et le but c'est de sanctifier dans nos cœurs Christ Seigneur. En toutes circonstances, notre désir c'est que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit sanctifié, mis à part. C'est ça qu'on recherche. Et c'est pas parce que quelqu'un nous accuse injustement ou veut nous faire du mal, bah lui il fait mal, c'est-à-dire il pêche. Mais si nous réagissons mal parce qu'il nous a fait mal, eh bien nous sommes aussi coupables devant Dieu. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour nous, notre réaction. C'est pour ça que notre désir, on a droit de se défendre, mais il faut être conduit par Dieu, parfois on ne se défendra pas, parfois on se défendra, mais il faut le faire avec douceur et avec respect, en gardant une bonne conscience, et sachant que c'est aussi une marque de témoignage, parce que ceux qui voient ça sont interpellés. Voit la différence. Et ça peut être un moyen de les amener, un jour, quand Dieu les visite, à se tourner vers le Seigneur. Nos réactions sont importantes devant Dieu, mais sont importantes également pour ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est quelquefois là qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils se disent « Alors là, on va voir, attends, est-ce que c'est vraiment un chrétien ?» Humainement parlant, on n'est pas à la hauteur, hein. Moi le premier. Mais on peut compter sur l'aide de Dieu, sur sa grâce, pour nous aider. Parce que l'enjeu en vaut la peine. L'enjeu en vaut la peine. Un troisième point, il nous reste 6 minutes, nombre 12. Nombre 12, du verset 9 au verset 13. Effectivement, face à ces situations, il est dit que la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Et oui, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire du mal d'un frère, d'une sœur, mais dire calomnier sans que Dieu reste indifférent. D'abord, il entend, et à un moment donné, la colère lui monte au nez, parce que Dieu ne supporte pas ces choses-là. Et il est dit, et c'est un avertissement, il s'en alla. Il s'en alla. Et je dirais que c'est encore valable aujourd'hui. Vous savez ce que Dieu a dit à l'église Jésus a dit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 2,5, il dit « Repens-toi ». Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. À un moment donné, si Dieu voit qu'un chrétien s'endurcit dans des attitudes charnelles ou qu'une église s'endurcit dans une attitude charnelle. Dieu va user de patience, mais parce que Dieu est saint, à un moment donné, Dieu peut partir. Dieu peut s'en aller, il peut retirer son endeuillé, de témoin, la vie de l'esprit. Dieu n'est pas indifférent à ces choses. C'est pour ça que c'est important de réaliser que nous avons un défenseur. Et Dieu est même plus concerné que nous. Il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Quelque chose, hein ? Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Ah là, on voit que le langage change, là, hein, par rapport à Moïse. Au départ, c'était... De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait appel à la grâce de Dieu et à la miséricorde de Moïse. Et déjà, sous l'Ancienne Alliance, il y a cette notion de grâce. Simplement, il est honnête. Il réalise qu'ils ont mal agi. Quand on est honnête devant Dieu, qu'on reconnaît nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos souillures, de toutes nos iniquités. Il est dit que Moïse, et c'est là, vous voyez, et Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». J'aime cette prière. Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». C'est-à-dire que Moïse n'a pas dit « Ah, eh ben c'est bien fait, vous l'avez bien cherché, vous allez mijoter un peu, ça, tu l'as cherché, voilà, j'ai un défenseur, Dieu t'a châtié, voilà, je suis juste et toi t'es puni ». Non, pas du tout. Il n'est pas dans cet esprit-là. Moïse n'est pas rancunier. Moïse n'est pas rancunier. Il est magnanime, il est prompt à pardonner. Et ça se traduit par le fait qu'il est prompt à prier, même pour son ennemi, ses ennemis, qui venaient juste de lui faire du mal. Effectivement, et Dieu va entendre la prière de Moïse. Certes, elle va être mise 7 jours à réfléchir un petit peu, hors du camp, puis elle va revenir. Dieu va la purifier, Dieu va la guérir. Moïse est imprégné de l'esprit de la grâce, du sermon sur la montagne. Il est prompt à prier pour ses ennemis. Et ça, on voit ça dans la vie de Jésus. Quand il est seul, abandonné de tous, qu'il est face à la foule, cette foule d'accusateurs, quand il est seul au moment d'affronter la calomnie, la haine, l'injustice, la plus flagrante, nous on peut subir une injustice, mais c'est rien comparé à ce que Jésus a pu subir sur la croix. C'est la plus grande injustice qui soit. La plus grande injustice qui soit. Lui le juste, lui le pur, qui a été accusé. Et la réaction de Jésus, Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur. Et déjà chez Moïse, on voit cet esprit-là. Et je crois que ça doit plaire à Dieu de trouver ça dans nos cœurs. Pas quelque chose de fin, hein, mais quelque chose qui est là au fond de notre cœur. Dans l'enseignement de Jésus également, Matthieu 5, 43, il est dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, n'aimez pas ce qu'ils vous font, mais aimez-les. » L'amour est une force. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te persécute, si quelqu'un te fait du mal, t'accuse, la première des choses, c'est de prier pour cette personne. Parce que ça, la prière a la capacité d'abord de changer, de disposer ton cœur favorablement, et puis peut-être même de disposer son cœur à cette personne favorablement. Priez. D'ailleurs, Jésus dira, pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exercice du pardon est aussi une façon d'aimer en action et avec vérité, comme il est dit dans la première épître de Jean. Le pardon n'est pas quelque chose de passif, mais au contraire, c'est quelque chose de très actif. Dans la démarche, qui n'est pas naturelle, c'est une démarche qui est spirituelle. Certes, elle ne se voit pas quand je décide de pardonner. Mais dans mon cœur, c'est une démarche, ça demande tout un travail. Je décide de changer. Légitimement, je devrais lui en vouloir et je devrais lui répondre au mal par le mal. Mais je décide, parce que Dieu m'en donne, parce que Dieu le veut et parce que Dieu m'en donne la force, de l'aimer, de lui pardonner. C'est tout un travail, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose de passif. Parce que si on se laisse passif, on va réagir charnellement. Et ça ne va pas nous conduire au pardon. Ça se passe au niveau du cœur, mais c'est suivi d'actes. Et en l'occurrence, l'un des actes, là, on le voit pour Jésus, mais on le voit également pour Moïse, c'est qu'il s'est mis à prier. Là, il le dit dans Romains 12, versets 17 à 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Il reste deux points à voir que Eh bien, nous verrons peut-être une autre fois, Dieu voulant. En conclusion, on pourrait faire cette lecture dans Matthieu 7. Versets 15 à 23. Mais à partir du verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On voit l'insistance, l'importance du fruit. Et il poursuit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc pas seulement les paroles, mais le fruit. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? En gros, n'avons-nous pas agi, fait des œuvres ? N'avons-nous pas servi dans l'Église ? Pour toi, pour ton nom, pour ta cause, Seigneur. Tu vois tout ce qu'on a fait. Tu vois tout ce que j'ai fait, Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien sûr, les œuvres ne sont pas à opposer avec le fruit, mais elles doivent aller ensemble. Elles doivent aller ensemble. Et s'il n'y a que les œuvres, mais qu'il n'y a pas le fruit, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 15, il dira, si vous portez beaucoup de fruits, c'est Jésus qui le dit, sous-entendu du fruit de l'Esprit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, et beaucoup de fruits, d'ailleurs, il ne met pas de S, hein, ça me parle bien du fruit de l'Esprit. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Pas seulement parce que nous faisons. Certes, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et vous serez mes disciples. Amen.